Eh oui, nous voilà aujourd'hui, dimanche, et nous sommes réunis pour le culte. Et le monde chrétien a appris hier que notre frère Reinhard Bonnke est retourné en présence de Dieu le 7 décembre 2009. Frères et sœurs, je vois 2019, je vois comme un signe de Dieu le fait qu'il il a repris à lui cet homme de Dieu absolument remarquable. Je crois que en ce début de siècle, on a été émerveillé de voir tout ce qu'il a fait au travers de cet homme, mais pas seulement, ça fait 60 ans que Reinhard Bonnke prêchait l'évangile. Et il a prêché devant des foules de plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est un homme, c'est un Allemand, et en 60 ans, l'Église a comptabilisé, il ne travaillait pas pour une Église en particulier, il travaillait pour d'une façon interconfessionnelle, comme Osborne, si vous voulez. Et les églises ont comptabilisé dans le monde entier 75 millions de conversions à Jésus-Christ dues au ministère de la parole et de puissance de cet homme de Dieu. 75 millions. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà un homme qui a porté du fruit. Évidemment, il ne l'a pas porté tout seul. Il avait sa femme, ses enfants, toute son équipe avec lui. Ils ont travaillé, mais c'était le Saint-Esprit en lui qui touchait les gens de cette manière-là, mais d'une façon fantastique. Et le fait que Jésus ait repris cet homme à lui, je vois ça comme un signe. Je crois que il faut que le peuple de Dieu se prépare vraiment, parce que la porte de la grâce est en train de se fermer petit à petit. Et comme du temps de Noé, voilà, c'est les derniers appels. Venez entrer dans l'arche, mais un jour Dieu va fermer la porte définitivement. Alors, il ne faut pas être triste, hein, faut pas être triste. Nous n'avons plus pour longtemps dans ce monde où règne le mal, où le mal a dépassé les bornes. Il ne faut pas être triste de quitter ce monde, c'est bien. Parfois, le monde ne veut pas de Dieu, ben, qu'il se débrouille, hein. C'est pas parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il connaisse, pour qu'il sache. S'il ne veut pas, je le lisais aujourd'hui sur Facebook, quelqu'un qui a marqué avec une photo des rues de Paris en pleine révolution, pensez-vous que c'est bientôt l'effondrement de la société? J'ai répondu, mais ce n'est pas bientôt l'effondrement, c'est déjà l'effondrement. Ce que vous appelez l'évolution des mœurs, c'est une dégénérescence. Vous avez mis Dieu dehors, et bien Dieu vous dit: débrouillez-vous maintenant. Voilà ce qu'on voit à l'heure actuelle. Dieu dit: débrouillez-vous. Mais ça va aller de mal en pis. Et la prochaine chose terrible qui va arriver, le monde entier va se réjouir parce qu'il va y arriver. Il va arriver un homme providentiel, celui que la Bible appelle l'Antichrist. Il se fera passer pour Dieu. Et tout le monde, il réussira à réunir tout le monde. Même les juifs, même les musulmans vont venir là-dedans. Et c'est terrible, terrible. Il ira jusqu'à Jérusalem s'asseoir dans le temple qui va bientôt être construit. C'est pour ça que moi je ne donne pas un sou pour construire ce temple, parce que je sais que c'est pour que cet homme aille s'asseoir dedans. Il n'en est pas question. Voilà, voilà, voilà. Et puis après, il va faire ça, il va régler, il y aura un temps, et puis ça va durer pas très longtemps. Mais quand même, les gens seront complètement trompés, complètement roulés par cet homme-là. Le monde est mûr pour recevoir l'Antichrist maintenant. C'est une bande de révoltés, une bande d'insouciants, d'inconscients, de manque de gratitude. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Voilà. C'est toujours la faute des autres, la faute du gouvernement, la faute... Bien sûr que... Mais quand même... Eh bien voilà, ça va bientôt être la fin. Bah, tant mieux, tant mieux. Notre frère a repris à lui, notre cher frère Reinhard Bonnke. Moi, je vois ça comme un signe. Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui vont critiquer. Mais, on s'en fiche. Voilà. On va faire une lecture dans la Bible ce matin. On va lire dans Galates 5, versets 16 à 18, s'il vous plaît. Galates 5, 16 à 18. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, et puis vous avez toute une liste. Je ne vais pas vous la lire, c'est une longue liste d'horreurs, mais bon, c'est ce qu'on voit tous les jours, hein, partout. Frères et sœurs, je vais vous révéler quelque chose ce matin que peu de pasteurs disent. Nous avons, chacun de nous, nous avons une identité provisoire. Ce que nous appelons notre moi. D'autres appellent ça notre ego. La Bible appelle ça notre chair. C'est pas le corps, c'est pas la viande, c'est tout ce qui est de notre être irrégénéré ou même régénéré, mais qui est encore là avec des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Notre chair, ben elle est provisoire. Donc tout est relatif dans cette histoire de chair. Notre être réel, ce que nous sommes réellement, c'est un esprit éternel, c'est ce que la Bible nous enseigne, un esprit qui a un passé et qui a un avenir éternel. Notre chair n'a pas de passé éternel. Elle peut recevoir la vie éternelle. Ou pas. Notre esprit habite dans un corps de chair, mais c'est provisoire. Vous voyez, quand notre frère Bunke qui s'en va comme ça. Alors, beaucoup de chrétiens, et même des non-chrétiens, luttent contre la chair, se battent contre leur chair parce qu'il y a des choses dans leur vie qu'ils n'aiment pas, des tendances, des pulsions, des choses dont ils ont honte ou qu'ils n'aiment pas parce que ça leur cause que des problèmes. Eh bien, je dis, ne luttez pas contre votre chair parce que si vous luttez contre votre chair, vous lui donnez de la force. Vous lui donnez de la force. Nous avons à développer notre esprit, l'esprit que nous sommes, pour pouvoir développer notre identité provisoire humaine. C'est tout autre chose. Nous avons à apprendre à dominer la chair, notre ego, par notre esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mais en nourrissant notre esprit, il devient fort pour dominer la chair, l'ego. Quand votre esprit est correctement nourri, il neutralise votre ego. Est-ce que c'est clair ce que je dis ce matin? Votre identité réelle, ça n'est pas votre chair, ça n'est pas votre ego. Ça, c'est une création. Moi, c'est né le 5 février 1950. C'est bientôt mon anniversaire. Mais c'est une création. Et tout ce qui est créé est appelé à être détruit. C'est une création qui a besoin d'être sauvée. Jésus n'est pas le sauveur de notre esprit. Jésus est le sauveur de notre âme, c'est-à-dire de la création que nous sommes, de l'être que nous sommes. Depuis que nous sommes nés, c'est ça que Jésus veut sauver. Nous, il nous semble que nous sommes cela, cette âme, cet ego, ce moi, Michel Janton, oh là là, là là, bof. Ça va crever, ça va aller dans le trou. Voilà. Et puis, l'être que je suis, s'il ne fait pas la paix avec Dieu aujourd'hui, et s'il ne marche pas selon les principes de Jésus, ben, il sera perdu, détruit. Comme il a été créé, il peut être détruit. C'est l'esprit qui retourne à Dieu. Et c'est spirituellement que nous devons agir pour que la chair, notre ego, diminue. Il faut qu'il diminue, parce que, comme je vous l'ai dit souvent, notre chair est folle. Notre moi, c'est une catastrophe. Notre chair, notre ego, il est étroit, il est mesquin. Et il se rend coupable de toutes sortes de péchés, de choses de toutes sortes. « Ah, mais moi, j'ai jamais péché !» Quand j'entends ça, mon Dieu, je leur éclate de rire au nez aux gens qui disent « Moi, j'ai jamais péché !» Alors, mes frères et sœurs, vous, en tant que chrétiens, vous n'avez pas à croire que vous êtes mesquins, étroits et coupables de péché, parce que cet ego, votre être charnel, a été crucifié avec Christ. Je vais vous lire ça dans Galates chapitre 2 et verset 20. Galates chapitre 2 et verset 20, où il est dit clairement, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré à ma place. » Il s'est donné à ma place. Il est mort à ma place. Le châtiment que je méritais, c'est lui qui l'a porté. Je suis aimé. Et quand Jésus-Christ a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui, en même temps que lui. Vous allez me dire, comment est-ce possible? Voilà encore une idée de l'âme étroite qui ne comprend pas qu'elle vit dans le temps et l'espace. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de temps et d'espace. Votre moi, il a été pardonné, il a été purifié. Vous allez me dire, bah, donc, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Mais c'est par l'esprit qui vit en vous que vous avez le pouvoir de vivre sur un niveau supérieur. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne de début à la fin. C'est l'histoire de toute votre vie. Non pas la lutte contre la chair, mais le développement de votre spiritualité. En développant votre spiritualité, vous prenez le contrôle sur les pulsions de votre ego, sur votre chair, sur votre bêtise, sur votre ignorance, sur votre inertie, sur votre étroitesse d'esprit. C'est ça la sanctification. C'est cela la sanctification. C'est vivre par l'esprit et non selon la chair. On ne peut pas lutter contre... Écoutez, on ne peut pas lutter contre la chair. On prend toujours Éphésiens chapitre 6, verset 12 pour dire ça. Écoutez bien. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est écrit, oui ou non? C'est écrit. Alors on pense toujours, « Oh, j'ai pas à lutter contre les autres, contre les gens. » Non, nous n'avons pas à lutter ni contre la chair des autres, ni contre la nôtre. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez pas à lutter contre votre chair. Ça, c'est de la religion. C'est de la gnognotte. Vous ne pourrez jamais lutter avec votre chair contre des esprits, puisque la Bible dit que ce n'est pas contre la chair que nous avons à lutter, mais contre des esprits mauvais, des démons. Votre viande, là, elle va lutter contre des démons? Non, mais vous rigolez! Moi, j'ai chassé des démons au nom de Jésus. Je peux vous dire, ce n'est pas de la rigolade, hein? Ils ont une expérience beaucoup plus grande que la nôtre. Et vous pensez, vous, que par votre chair, votre intelligence, vos méditations, ni, tout ça, vous allez y arriver? Voilà pourquoi vous retombez tout le temps. Voilà. Parce que vous n'avez rien compris du tout, mes pauvres enfants. C'est pas la chair. Non. On n'a pas à lutter contre la chair, mais contre des esprits. Alors comment est-ce qu'on lutte contre des esprits? Eh bien, on lutte esprit contre esprit. Votre esprit, il est éternel. Votre esprit, il a de l'expérience. Votre esprit, il sait. Pas votre âme. Votre ego ne sait rien. Et votre ego ne sait que ce qu'il apprend. Alors si en plus il a appris des choses fausses,
oh, faut chasser les mauvais esprits, au nom de la Sainte Vierge Marie, ou avec un livre spécial de la microscope,
Mais bon, vous êtes foutus. Les esprits, les mauvais esprits, se chassent par notre esprit qui est maintenant à Dieu, qui s'est réconcilié, qui est en communion avec Dieu, et c'est un combat spirituel, pas charnel. Votre chair, c'est votre nature humaine, votre chair ne peut pas lutter contre des esprits. C'est pourquoi quelqu'un a inventé ce proverbe qu'il brûle dans la Bible, « Chasser le naturel, il revient au galop. Là, j'ai appris... C'est le mois où on fume pas. Alors il y a plein de gens sur Facebook qui écrivent « Oh ben moi je vais le faire !» Ils vont tenir 2-3 jours. Puis ils vont dire « Oh, une petite cigarette, ça fait pas de mal. Je suis stressé. » Chasser le naturel, il revient au galop. Vous ne connaissez pas ça? Vous croyez que j'ai tort? Bon ben restez dans votre mélasse, ça vous fait plaisir. Ah, Michel, comment tu parles? Oui, comment je parle? Vous voulez que je vous parle comment? Vous voulez que je vous dise, ne chassez pas les esprits avec votre chair. Ben, c'est pas comme ça qu'on parle dans la vraie vie. Là, je vous parle de la vraie vie. Ne chassez pas les esprits avec des efforts charnels. Mais neutralisez votre ego, soumettez-le aux lois de l'esprit, c'est-à-dire la Bible. La Bible. Que la Bible. Il y a d'autres témoignages de Jésus-Christ, c'est vrai, mais la Bible, c'est le best. C'est le meilleur. Il n'y a rien qui arrive à la cheville de la Bible. Rien. J'ai vu mon témoignage n'est pas mauvais, mais c'est rien du tout à côté de ce que la Bible dit. Le témoignage de Joseph Smith est bien, mais c'est de la gnognotte à côté de ce que Jésus, à côté de ce que la Bible dit. Reinhard Bonnke, c'est formidable. Mais c'est une pipi de chat à côté de ce que la Bible dit. Non mais alors, c'est quoi ça? La Bible. Pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cet esprit qui vous empêche de lire la Bible? C'est incroyable ça. On ne peut pas lutter contre la chair, c'est pas possible. Avec la chair, on ne peut pas. C'est ça ce que la Bible appelle la persévérance des saints. Dans Apocalypse 14, je vais le retrouver, Apocalypse 14, il est dit, au verset 12, c'est ici la persévérance des saints, virgule, qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est ça la persévérance des saints. De quels saints? Les saints des derniers jours? Ben eux aussi, mais pas que eux. Ils se croient la seule église au monde. Ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Oh, l'autre jour il y en a un qui me dit, ouais quand même, 15 millions, ouais 15 millions. Ouais, bah rien que Reinhard Bonnke a amené 75 millions de personnes en 60 ans à Jésus. 15 millions, c'est pas mal. Ouais, puis toi, j'entends, t'as fait quoi? C'est incalculable, je sais pas, on n'a jamais fait le calcul. Mais c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont été sauvées, qui ont été guéries et tout. Et partout dans le monde, il y a des. Il faut arrêter de dire, on est les meilleurs. Comment on peut dire une bêtise pareille? Comment on peut arriver à dire une ineptie pareille? Votre esprit est divin et le Saint-Esprit est en vous pour soutenir votre esprit. Romains chapitre 8, verset 14 à 16. Romains 8, 14 à 16. Je lis. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'être sous une loi pour vous forcer à faire ceci, vous forcer à faire cela. Non, vous avez reçu le Saint-Esprit qui est en vous et qui vous aide à faire la volonté de Dieu. C'est plus une obligation, c'est une joie. Mon Dieu, comme ils arrivent à transformer les choses de, toutes simples et saintes de Dieu en religion idiote. Alors, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le verset sous le calendrier que nous avons ici dit que Dieu n'habite pas des temples faits de mains d'homme. Voilà. Alors, eux, là-bas, ils disent il faut avoir une autorisation pour aller dans le Saint-Temple de Dieu, c'est là qu'on rencontre Dieu. Ah oui, Dieu, on peut rencontrer Dieu que là-dedans. Ah bon, d'accord. Alors moi, je suis le Temple du Saint-Esprit, et je suis un Temple qui va rendre visite à Dieu dans un Temple. Mais non, mais c'est comme la Trinité, c'est un truc incompréhensible, quoi. Et puis c'est un truc que je ne veux pas. Une chose que je ne peux pas comprendre, je n'en veux pas. C'est clair? Je ne peux pas, c'est pas possible. Qui est le Temple du Saint-Esprit? Tout croyant qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qui marche selon les choses de l'Esprit, c'est-à-dire selon les commandements de Dieu, mais qui peut le faire grâce à l'Esprit de Dieu qui est en lui. On ne peut pas le faire si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. On ne peut pas. L'Esprit de Dieu a choisi votre corps pour habitation. Il n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes, même si c'est la plus belle, même dans Notre-Dame de Paris, même, bon, encore là, mais en tout cas pas dans le Sacré-Cœur, c'est trop moche. Non, pardon. Il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, point barre. Point barre, c'est tout. Il habite en vous ou il n'habite pas en vous, c'est tout. Ça, moi, je ne peux pas juger. C'est vous qui savez. C'est vous et Dieu. Moi, je ne peux pas juger. Le Saint-Esprit a choisi votre corps pour habitation, pour vous accompagner dans votre développement. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Voilà. On est le temple de Dieu. Il n'est pas locataire, il est propriétaire. Amen. Oh, moi, je trouve ça tellement magnifique. La tâche de votre esprit qui habite, c'est votre esprit éternel qui donne vie à l'être que vous êtes. La tâche de votre esprit, c'est de domestiquer votre ego, votre chair, c'est de le domestiquer. Moi, j'ai un chien. Eh ben, mon Dieu, c'est pas facile de domestiquer un chien, mais ça commence à venir. Ça commence à venir. Il nous a bousillé les portes, là, en grattant. Ben, vous l'expliquez, ça, il comprend pas encore. Puis on en a un autre, lui, il va courir sur la route. Bon, ben on lui dit, on lui explique, on lui parle, on lui tape sur les fesses. Il continue, ben un jour on va le retrouver écrasé, puis voilà. Ben vous aussi, on va vous retrouver foutu un jour si vous ne faites pas, si vous ne domestiquez pas votre chair par votre esprit. Vous êtes comme le chien qui va courir sur la route. Vous ne voulez pas domestiquer votre âme, votre ego. Bon, ben allez vous faire écraser par le diable, si ça vous fait plaisir après tout. Hein. On ira à votre enterrement, on ira, oh oui, oh le pauvre. Oh, il était gentil quand même. Puis il était rigolo, moi aussi, hein, il disait bien, tiens, passe-moi le sel. Puis voilà. Tu vois, puis personne ne se souviendra de vous dans 30 ans, c'est fini. On n'est pas si important que ça. Hein. Notre tâche, la tâche de notre esprit, c'est de domestiquer notre chair, de lui apprendre à vivre. Car depuis que vous êtes né, votre ego, qui a déjà hérité des gènes des parents, alors pour certains c'est la catastrophe, j'en connais, je ne vais pas dire les noms, hein, parce que je suis gentil, puis je n'ai pas envie d'avoir des procès. Mais ils n'ont pas été gâtés hein, avec les gènes de leurs parents. Ils sont tous tarbouches dans la famille. Alors déjà, bon, eux ils sont devenus chrétiens, c'est bien, mais ils sont quand même encore tarbouches. Pourquoi? Parce que ben, c'est dans leurs gènes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils domestiquent tout ça. Mais ils sont trop orgueilleux, ils ne veulent pas. Alors d'abord, on a hérité de nos parents, les gènes de nos parents. Par exemple, je vois mes petits-enfants, Élise, Lucas, Titi, ils ont hérité des gènes de leurs parents, c'est des petits génies. Gentils, calmes, doux, parfaits, magnifiques, bleu ciel et tout. Parce qu'ils ont hérité des gènes de leurs parents qui sont super. Voilà. Et puis, ensuite, notre ego, il a appris toutes sortes de choses qui sont pour la plupart des sottises. C'est là où ça se gâte encore plus. C'est là où vous devez faire attention, les enfants. Les rencontres que vous faites, les choses que vous apprenez, la plupart, c'est de la bêtise et des sottises. Et beaucoup de personnes se sentent coupables d'être, pas seulement coupables d'avoir fait ceci ou d'avoir fait cela, ou d'avoir dit ceci ou d'avoir fait cela, mais simplement, ils se sentent coupables d'être, et ils se suicident. Tellement que c'est gros, tellement que c'est lourd. Alors votre chair, mes frères et sœurs, n'est plus coupable de rien, elle a été pardonnée, purifiée par le sang précieux de Jésus à la croix, si seulement tu le crois et que tu te mets à marcher selon les principes de Jésus. Ta chair n'est coupable de rien. Ouais, encore hier, je vais... Oui, tu peux pécher, c'est vrai, on n'est pas encore parfait, mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Il veut simplement qu'on lui parle de nos péchés, qu'on lui dise, voilà, j'ai fait ça. Vous devez rappeler à votre chair tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'elle a été pardonnée, qu'elle a été purifiée de toute iniquité. Vous devez lui rappeler parce qu'elle est folle. C'est pas parce que vous lui dites une fois qu'elle comprend. Vous lui répétez tous les jours. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est écrit dans Romains chapitre... ça m'étonne, c'est marqué 50-20. C'est pas ça, ça doit être Romains 5, je pense. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, dites à votre ego, à votre moi, parlez-vous. Hein, David, il se parlait à lui-même. Et on a le droit de se parler à soi-même. Dites-lui, je te connais et je t'aime. Et on va travailler ensemble pour que tu progresses dans la dignité. Dites-lui ça tous les matins. Et puis aussi dans la journée. Vous êtes un esprit éternel qui travaillez pour que votre être, votre âme, perfectionne le don de la vie éternelle que Jésus vous a offert. C'est pourquoi il est écrit « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut ». Vous n'allez pas gagner votre salut, mais vous allez améliorer votre âme afin que quand vous arriverez devant votre Père, vous ne serez pas là les mains dans les, tout nu les mains dans les poches. Notre frère Renard Bonquet, il n'est pas devant Dieu, il est tout nu les mains dans les poches. Hein. Il arrive avec des gerbes plein les bras de tout ce qu'il a fait. Alléluia! Osborne, pareil! Daisy Osborne, pareil! David Wilkerson, pareil! Et combien d'autres? Dick Ramsey, et combien d'autres? Raphaël! Oh. Vous êtes un esprit éternel. C'est votre tâche, c'est ma tâche. Parce que même mon corps doit recevoir l'immortalité. Même mon corps. Alors, je vous rassure tout de suite, votre corps ne ressemblera pas à celui que vous trimballez ici-bas. Moi encore, ça peut aller. Je plaisante. Non, mais il y en a qui sont vraiment pas gâté, hein. Vous serez magnifique, vous serez superbe, sans défaut, sans handicap, sans maladie, sans toutes les limitations qu'on connaît ici-bas. Et moi, j'en ai, puis il y en a que vous ne connaissez pas, que j'ai comme limitation dans mon corps. Il y a des trucs qui puis plus on vit un vieux, plus ça se déglingue. Hein, Rachel, ma pauvre Rachel, mon Dieu. Et mon pauvre Robert, hein, ça se déglingue. Plus on vient vieux, plus on se déglingue. Votre esprit, il est en train de former votre ego, votre chair, votre moi. En fait, votre esprit éternel est venu sur cette terre pour ça. Pour ça. Alors, nous sommes souvent maladroits envers nous-mêmes, parce que des fois, on croit bien faire, et puis on se trompe complètement. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus nous parle de conversion. Alors, quand vous dites conversion, les gens pensent, ah non, moi je ne veux pas devenir catholique. Parce que dans l'inconscient général, on pense que se convertir, c'est devenir catholique ou c'est devenir musulman. C'est pas ça. Se convertir, le mot dans le dictionnaire, ça signifie muter. Ça signifie changer, se métamorphoser, se retourner. Se retourner. Voilà les définitions qu'on trouve dans le dictionnaire. Or, l'ego, il regarde toujours devant lui, il croit qu'il va s'en sortir de ses problèmes en avançant. Il dit, ah oh non, je ne veux plus m'inquiéter pour le reste, ce que j'ai fait, je vais avancer, je regarde en avant, je vais de l'avant. Vous avez jamais entendu ça, cette expression, je vais de l'avant. Alors, il va de l'avant, il va en avant, puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit une fenêtre. Jésus dit, c'est pas ceux qui passent par les fenêtres qui seront sauvés, il faut passer par la porte. Mais où est cette porte? Alors il voit une fenêtre. Il dit, ah, c'est peut-être ça. Alors il veut passer par la fenêtre. Alors la fenêtre, qu'est-ce que ça peut être, la fenêtre? Ça peut être un cours de pensée positive, ça peut être une religion, ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi. Et il veut passer par la fenêtre pour essayer de s'en sortir. Alors il cherche à passer par cette fenêtre, mais il s'aperçoit vite qu'elle est trop haute pour lui. C'est trop. Les exigences sont trop élevées. Hein? Alors l'ego se décourage. Et il finit par critiquer la fenêtre. Ouais, cette fenêtre. Pff, la religion. J'ai essayé. Mais c'est pour les faibles. Non, c'est seulement parce que t'as rien compris. Puis t'as été dans une religion bizarre. Enfin, je sais pas, t'as passé par une fenêtre. Le sport, c'est fatigant. Des cours de pensée positive, c'est cher. Bref, on a toujours, pour se justifier, l'ego, il critique. Quand quelqu'un vous critique, c'est pour se justifier quelque part, lui-même. Quelqu'un vous critique, c'est parce qu'il veut se justifier lui-même. La critique, c'est ce qu'il demande, c'est de constater scientifiquement. C'est ce que j'ai lu, hein. Maintenant, je ne sais pas, je ne connais pas les scientifiques, hein. C'était constaté, paraît-il, que la critique, c'est ce qui demande le moins d'énergie à notre cerveau. Ça m'a fait rire. Et puis, tout à coup, comme il a essayé la fenêtre, ça ne marche pas, ah, une cheminée. Hein, bientôt, il y a Père Noël qui va descendre par la cheminée. Et vous, vous dites, c'est génial, une cheminée. Je vais pouvoir m'en sortir par là. Je vais passer par le haut, je vais monter, je vais grimper dans la cheminée, je vais monter, je vais m'élever, hein, je vais devenir oui, je vais devenir puissant, j'aurai du pouvoir, je vais m'élever. Mais au bout d'un moment, l'ego s'aperçoit que ce n'est pas si facile que ça parce qu'il faut travailler. On ne devient pas riche sans rien faire, il faut travailler. Et puis il faut aussi investir, donc se priver un peu pour pouvoir investir. Ah ben non, alors si j'aurais su, j'aurais pas venu, parce que alors s'il faut investir, s'il faut encore en plus se priver de cigarettes, et puis pour pouvoir investir, ah ben non, non. Je voyais une pub magnifique sur les nouvelles lunettes Dior, et quelqu'un écrivait, mais c'est du plastique au prix de l'or. Non, d'abord, premièrement, elle ne connaît pas le prix de l'or, puis deuxièmement, ben, les lunettes, c'est un bijou, ça doit être beau, non? Alors, je lui dis, arrêtez de fumer, vous pourrez vous payer ce plastique. Dior. Oui, mais moi j'en ai trouvé les mêmes à 10 euros, c'est bien. Mais nous, vous les avez sous le nez, vous êtes fiers, vous avez payé 10 euros. Mais nous, on vous regarde et on voit que c'est de la camelote. Donc ça veut dire qu'on voit que vous n'avez pas... Hein, vous n'avez pas beaucoup de goût et ni de fierté de vous-même. Vous mettez de la camelote. Oui, mais c'est cher. Que ça veut dire que c'est cher? J'étais regardé les prix, c'est 300 euros. C'est cher. Mettez combien d'argent dans votre saloperie de cigarette? Hein? Faut arrêter. Pardon, j'ai dit un gros mot. Voilà, me donne une gifle. Oh, il faut travailler. Alors il va se mettre à critiquer. Mais c'est pas possible de s'enrichir. L'État fait tout pour qu'on puisse pas s'enrichir. Ceux qui s'enrichissent, c'est tous des gros malhonnêtes. Voilà. Des vilains. Mets ta main dans l'or, je vais te taper dessus. Des vilains. Et puis si t'es pas pistonné, hein, tu peux pas y arriver. C'est la faute des francs-maçons et des fourbes charpentiers. C'est la faute des juifs. C'est la faute des Illuminati. C'est la faute du gouvernement. Bref, c'est jamais ma faute, c'est toujours la faute des autres. Moi, je suis désolé, je suis parti de rien. Et ben maintenant, hein, c'est pas mal. Mais on a travaillé. Oh, on a travaillé. On s'est aussi un peu privé. On a fait des économies. On a fait des investissements. Voilà. Alors les gens me disent, bon, je vous rappelle quand j'ai dit je veux un château, les pasteurs disaient, oui, t'as la folie des grandeurs, c'est un péché, gna 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 gna. Puis quand j'ai eu le château, ils venaient les mêmes, puis ils disaient, oh, mais quelle chance tu as d'avoir un bâtiment comme ça pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis pas de la chance, c'est de l'intelligence et du travail. Et Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Alors, ils entendent une petite voix derrière eux, après avoir essayé la fenêtre et la cheminée, ils entendent une petite voix. Convertis-toi, repens-toi, tourne-toi, tu fais fausse route, convertis-toi à Jésus. Et l'écho dit, l'ego, votre ego dit, non, me convertir à Jésus, moi je connais, c'est tous des demeurés dans les églises, c'est tous des tarés. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais enfin, quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. La porte de sortie de l'ego, elle est juste derrière toi. Jésus est la porte. Mais tu ne le vois pas parce que tu y tournes le dos. Tu confonds Jésus avec la religion. Tu confonds la porte avec la fenêtre. Voilà l'ego. Quand je vous dis que l'ego, il est fou, malade mental. Hein. Alors, il faut brutaliser un peu votre ego pour qu'il se mette à comprendre. Alors, il arrive des épreuves. Dieu envoie des épreuves. Et les gens, plutôt que de réagir correctement, ils disent « Ouais, s'il y avait un Dieu, je serais pas tombé malade. » Non, mais ça devient désespéré, je veux dire. Parce qu'en général, c'est vrai. Quand ça va mal, quand on ne sait plus où se tourner, en général, on crie à Dieu. Ça a toujours été comme ça, dans toute l'histoire humaine. Sauf dans notre génération. Dans notre génération, les gens sont une bande de révoltés qui non, ne croient pas en Dieu, mais c'est de la faute de Dieu quand même. Bon, alors toi qui m'écoutes, toi ton ego il a compris, toi tu t'es converti, mais tu as encore du choix à faire. Tu as franchi la porte, Jésus a dit « je suis la porte », mais il a aussi dit « je suis le chemin ». Et derrière cette porte, donc, il y a un chemin. Alors tu marches sur ce chemin, spirituellement, c'est-à-dire selon les principes de Jésus, c'est-à-dire selon ce qui est écrit dans la Bible, et non selon les principes de ta chair. Tu décides d'obéir à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en communion avec ton esprit. Ton esprit a pris les commandes avec l'aide du Saint-Esprit. Ton esprit a le pouvoir de décider. Et maintenant, ta chair, ouh, elle est impressionnée, elle se soumet. Et voilà. Puis après, de temps en temps, elle relève un peu la tête, tu la resoumets. C'est toute la vie que ça sera comme ça. Il y a beaucoup de... Il y a une vérité que beaucoup de gens semblent oublier. Un, tu es un esprit. Deux, l'Esprit Saint qui est en toi depuis ta conversion, il est en toi, et si tu t'attaches au Seigneur Jésus, si tu persistes à faire sa volonté, si tu as autorité sur ta chair par ton esprit avec l'aide du Saint-Esprit, tu es un seul et même esprit avec Dieu. Tu vas me dire, c'est pas possible, mais quelle hérésie! Bon, ben, je vais vous lire dans la Bible pour que vous soyez sûr que c'est vrai. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et là, tu es un seul esprit avec Dieu si tu t'attaches au Seigneur. Ça signifie que tu es plus divin que humain. Tu es comme Jésus quand il était sur la terre. Tu as dit, mais c'est pas possible. Mais quelle hérésie! Michel, deviens un peu humble. Non, pas, je veux pas de ton humilité charnelle à la noix de coco de Bâle. Écoute ce que la Bible dit. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais pas n'importe qui. Ceux qui marchent dans l'esprit. Vous voyez? Tel Jésus est, tel tu es aussi dans ce monde, c'est-à-dire à la fois humain et divin. Mais Jésus, il maîtrisait son côté humain par l'esprit de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Humain et divin. Alors ton travail, c'est de travailler à ton salut spirituellement. Et petit à petit, tu vas développer des nouveaux réflexes, des nouvelles habitudes. Écoute ça. Se convertir, c'est se retourner vers Jésus, c'est se retourner vers la porte. C'est passer par la porte. C'est quitter tes vieilles façons de vivre égoïstes, petites, étroites et bourrées de sottises. C'est marcher sur le chemin, c'est persévérer, c'est progresser en vue d'atteindre le but qui est la vie éternelle de ton âme, de ton être. L'âme, ça veut dire l'être. C'est ça le but. Alors voilà, je pense que je l'ai bien dit, je l'ai bien expliqué. Maintenant, si vous n'avez pas compris, alors là, c'est pas ma faute. Hein. Je crois que tout le monde, même le chien me regarde. Il a l'air d'avoir compris, même le chien. Bon, tu me diras, bon, t'as un chien dans ton église? Ouais, alors? Et alors? Puis on a même une crèche avec un bœuf, un âne, un mouton. Il y aura tous ces animaux au ciel. Il n'y aura peut-être pas vous, mais il y aura des animaux. Eh oui, mais les animaux, ils auront aussi à rendre compte du sang qu'ils auront versé injustement. Tout ça, ça va être jugé, c'est clair. Alors, faites ce que je vous dis, croyez ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, je le dis de la part de Dieu, parce que je l'ai trouvé dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Merci pour la clarté des choses que tu nous as enseignées aujourd'hui, et permets que chacun en tire une bonne leçon, et se mette à vivre selon l'Esprit, en arrêtant de vivre selon la chair. Au nom de Jésus, je te prie, mon Dieu. Et veuille bénir la famille Reynard Banquet, de la famille de Reynard Banquet. Veuille les bénir et les encourager, les soutenir, ainsi que tous ceux qui étaient autour de lui, qui l'aimaient, qui étaient ses proches. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir.